Bonjour à tous. Vous allez bien? Pas trop fatigué? Après les vacances? Après la fête? Bon, voilà, nous allons prier avant de écouter le message. Ouais. Merci Seigneur que tu nous donnes ce temps pour consacrer à toi entière, pour célébrer, pour te louer. Merci Seigneur que tu es là, ta parole est fidèle, ta parole est remplie à ton amour et que tu nous aides de comprendre ta parole pour vraiment exercer notre vie dans ta volonté. Nous remettons ce temps entier à toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je vous dis que chaque fois je prépare le message avec français, c'est un challenge pour moi. Donc, j'essaie de faire mon effort pour parler clairement. C'est sûr que vous allez pas dormir parce que avec ma français très limitée, vous allez tous réveiller. Voilà. Le premier roi d'Israël était Saül, le second roi était David, et le troisième était Salomon. Il gouvernait tout le pays. Donc après la mort de Salomon, l'État d'Israël a été divisé en deux. Le nord et le sud. Le nord est encore appelé Israël. Le sud s'appelle Juda. 19 rois ont régné au nord d'Israël, mais aucun n'était un bon roi. Alors Dieu a utilisé le royaume assyrien pour attaquer Israël et les amener captifs en Assyrie. Comme à ce moment-là, le royaume du sud, c'est-à-dire que Juda, existait toujours. Le pays d'Israël n'avait pas encore disparu totalement. Il y a aussi 19 rois en Juda, donc 8 bons rois. Même si Ozias a été un bon roi à l'époque, il est finalement devenu mauvais. Juste parce qu'il y a eu plusieurs bons rois en Juda, Dieu l'a gardé pendant plus de 100 ans. À la fin, le roi et le peuple étaient corrompus. Et Dieu a attaqué le pays en se servant de Babylone, et Juda a été emmené captif à Babylone. Quand Juda a été emmené captif, tout le pays d'Israël a officiellement disparu de son territoire. Après l'envoi en captivité de l'État du Nord, c'est-à-dire Israël, ses habitants ne sont jamais revenus. Mais en revanche, Juda est revenu après 70 ans de captivité selon la promesse de Dieu. Juda, l'État du Sud, a été amené en captif en 3 périodes. Première période, il écrit dans le texte de Rois 24, versets 1 et 4, de son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en compagne. Joachim lui fut assujetti pendant 3 ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. C'est la première étape-là. C'est la première étape qui est enregistré dans le premier chapitre de Daniel et durant la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Daniel a été capturé à ce moment-là. Donc, la deuxième étape, c'est situé de 2 Rois 24, 10, versets 10 et 12. Et troisième étape, 2 Rois 25, 1 à verset 2. Donc, je vous laisse lire. Donc, à travers 3 périodes-là, après que les Israélites eurent été emmenés à Babylone, Daniel fut choisi parmi les jeunes du palais de Babylone. Et après 3 années d'entraînement, il se tint devant le roi de Babylone pour le service. Le premier chapitre raconte durant Daniel fut les 3 ans, histoire lorsque Daniel et qui vit cette rencontre. Nous pouvons comprendre qu'il se souvint qu'à l'âge de 15 ans, il était venu à Babylone et qu'il était encore jeune. Le royaume de Babylonien n'était pas le même que Jérusalem. Ils ont été amenés à Babylone et étaient ce à cause de ce qui n'allait pas avec Daniel? Non, c'était parce que les Israélites avaient péché contre Dieu. Alors, quand toute la famille d'Israël a été captivée, Daniel a également été diffamé parce qu'il était de jeunes talents. Ils ont été recrutés dans le palais royal de Babylone et on pourrait dire qu'ils sont arrivés au cœur de Babylone. Ils bénéficiaient toutes les richesses dans ce pays. Daniel est comme un jeune homme ordinaire. Il va certainement poser une question. Pourquoi est-il perdu dans le meilleur moment de la vie quand il était encore jeune? Il est né dans une famille d'aristocrates, mais maintenant plusieurs sont devenus les eunuques du pays ennemi. Vous pouvez imaginer combien son corps et son esprit sont dévastés. Pouvez-vous imaginer quels sont les sentiments? Ses sentiments. Babylone n'était pas complètement étranger à Daniel. Il en avait entendu parler depuis longtemps. Et peut-être racontait-il l'histoire babylonienne à ses parents et à sa famille. Où est Babylone? En effet, c'était la ville natale d'Abraham. Tout à l'heure, Abraham est parti de Luc, des Satène, ah, Katène, Lure des Katène, ah, c'est pronom Katène, au pays de Canaan. Nous pouvons donc imaginer que lorsque Daniel a été emmené à Babylone, il a trouvé ce qu'il avait entendu auparavant. Et maintenant, il a vu de ses propres yeux. Il avait l'habitude d'entendre parler de son ancêtre Abraham, comment il vivait à Ur des Chaldéens, quand la gloire de Dieu lui était apparue. Comme il est parti Ur, comment il a été le premier hébreu à passer l'Euphrate, puis tout Israël, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob, y compris Daniel, étaient tous devenus le peuple des Hébreux. Maintenant, Daniel est retourné à Babylone contre sa propre volonté à cause de la captivité. Il est retourné à l'endroit où son ancêtre Abraham a vécu. À ce moment-là, il n'avait jamais rêvé de voir le pays qu'Abraham avait vu. Babylone est la terre des idoles. Aujourd'hui, on peut dire que de Daniel, qu'il est un chrétien qui vit parmi un groupe d'idolâtres, surtout dans le palais royal du roi Nebuchadnezzar. Le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. On peut imaginer que ses parents lui ont donné ce nom à cette époque durant laquelle les Israélites ont péché et savaient que Dieu était un juge. Un jour, Dieu les jugera. Ses parents l'ont appelé par son nom tous les jours. Ses parents l'ont appelé par son nom tous les jours. Daniel, Daniel, Dieu est mon juge. Daniel, Daniel, Dieu est mon juge. Et ce nom a rappelé aux Israélites qui ne pouvaient pas continuer de pécher sans fin. En conséquence, les choses ont fini par arriver et le peuple a finalement été amené captif à Babylone. Voilà l'histoire que raconte le livre de Daniel, c'est-à-dire que sa vie à Babylone. J'aimerais que vous puissiez regarder simplement quelques caractéristiques qui ont permis à Daniel d'être un homme influent pendant pratiquement 70 ans dans ce pays Babylone. Daniel, c'est un homme saint. Chapitre Daniel 1, verset 8. Il est aussi un homme de prière et de foi. Un homme qui sait que Dieu règne, qui sait interpréter les temps. Un homme intégré qui fait passer la volonté de Dieu avant sa propre vie. Un homme intégré qui fait passer la volonté de Dieu avant sa propre vie. Un homme qui étudie sa Bible, prie et jeûne en se solidarisant à son peuple. Dieu lui a donné comme récompense un don qui lui permettra d'expliquer le rêve. La première chose est de témoigner de sa grandeur, de Dieu, pas lui. Si tu es de Daniel 2, verset 23 et verset 30. Cela veut dire que ce n'est pas ce que j'ai fait, ce sont les choses que Dieu a faites. Donc Daniel a inconsciemment introduit Dieu auprès du roi. Nebuchadnezzar ne connaissait pas ce Dieu, il ne connaissait que le faux Dieu. Ils ne savent pas qu'il y avait un vrai Dieu. Et Daniel a profité de cette occasion pour aller voir Nebuchadnezzar et lui dire « Je peux résoudre votre problème. J'ai la capacité d'expliquer le rêve. Mais ce n'est pas grâce à moi, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu est meilleur que tous les fausses dieux. » C'est de cette façon que Daniel va conduire le roi Nebuchadnezzar vers la connaissance du vrai Dieu. Le but du livre Daniel est de nous montrer la façon dont Daniel juge Dieu juge les Israélites et comment il est en roi dans un pays étranger. Comment ils testent leur foi afin qu'ils n'imitent pas le mode de vie des païens, des non-croyants. Daniel a vu ces choses et a tenu bon, bien qu'il ait vécu dans un siècle impur mais profane du royaume babylonien. Cependant, il a toujours vécu dans la piété et a été victorieux en glorifiant le nom de Dieu. Voilà, en commençant par le premier chapitre, nous voyons qu'il ne mangeait pas la nourriture des Babyloniennes et n'adorait pas leurs idoles. La semaine dernière, j'ai partagé le chapitre 4 en lisant le quatrième chapitre de Daniel qui mentionne que l'empereur Nebuchadnezzar de l'empire babylonien, respecté de Dieu, adoré par Daniel comme un grand Dieu et croyait en lui. Le roi Nebuchadnezzar proclame que la loi de Dieu est héritée de génération en génération, parce que le témoignage de Daniel a profondément influencé ce roi étranger. Cet après-midi, je continuerai à partager le cinquième chapitre. Ce chapitre parle de la façon dont les Mèdes ont remplacé les Babyloniennes. Qui est le roi de Belshazzar? Belshazzar est le fils de Nidoc. La fille de Nebuchadnezzar et Naponite est le père de Belshazzar. Belshazzar et son père Naponite étaient en charge du gouvernement, donc Nebuchadnezzar était l'ancêtre de Belshazzar. Probablement, son grand-père, le mot de père peut avoir le sens d'ancêtre. Dans les chapitres 2, 11, 18 et 22. Le chapitre 5 raconte le moment où Naponite, le père de Belshazzar, était revenu d'une expédition militaire contre les Arabes, en vue de restaurer les relations commerciales des Perses. Sa mère, Nidoc, l'accompagnait. Belshazzar était au pouvoir. Le père et le fils ont tous deux été rois. Le roi Belshazzar et le père du roi Naponite étaient au pouvoir. Le père était absent lorsque l'armée des Mèdes a assiégé la capitale. Ils donnaient une fête dans la ville. Les ministres, les reines et tous les nobles s'étaient enivrés. Ils désirent utiliser les vases et les ustensiles en or que son grand-père Nebuchadnezzar avait volé dans le temple de Jérusalem. Ces choses cinq, Nebuchadnezzar n'avait pas osé les utiliser. Non seulement cela, mais aussi louer les idoles faites par les pierres d'or, d'argent, de cuivre et de fer qu'il avait établi. Il était un roi ridicule et sinistre. Peu préoccupé par la survie de son pays, le roi de Belshazzar méprisait le vrai Dieu, comme son père, quoi. Et quand il buvait avec les ministres, le doigt de quelqu'un apparut, écrivant sur le mur de plâtre face au lombataire et au Heveber. À ce moment-là, ce roi arrogant a eu peur. En fait, Dieu a écrit comme si c'était une écriture humaine. Ce qui est une chose surnaturelle et pas surprenante de sa part de Dieu. Dans le passé, Dieu a également, souviens-toi, utilisé ses doigts au mont Sinaï pour écrire les 10 commandements sur les tablettes de pierre. Exode 31, 18. Ça montre clairement c'est Dieu qui manifeste sa gloire envers un Dieu qui maîtrisait la gloire de Dieu. Qui est la reine de mer? La reine de Pessassa a voyagé avec son mari. La reine mère est soit la mère de Naponite. C'est-à-dire que c'est la femme de Nebuchadnezzar. C'est une femme qui craint Dieu et qui a une compréhension profonde de la connaissance surnaturelle de Daniel. Voilà le verset 10 et 12. Et elle utilise le nom d'hébreu pour appeler Daniel. Tout à l'heure, le nom de Daniel, c'est quoi? Mon Dieu est, Dieu est mon juge. Elle est peut-être une personne qui croit au vrai Dieu comme le roi Nebuchadnezzar, qui plus tard s'est humilié devant Dieu. La reine mère a vu la réaction horrifiée du roi à la fête et comme l'inscription était impossible à expliquer, elle a présenté Daniel au roi. Daniel avait 80 ans et a été présenté au roi. À cette époque, il y avait des milliers de sages. Pourquoi Daniel n'est-il pas là? Pourquoi n'est-il pas là? Daniel n'avait même pas été mentionné, nommé pour expliquer le rêve de Nebuchadnezzar. Le jeune roi Pessassar a dit que d'un nom méprisant, en disant que « Es-tu Daniel parmi les Juifs qui ont été emmenés captifs ?» Il a méprisé le prophète de Daniel en lui promettant une grande récompense. Le roi pensait que Daniel pourrait lui s'expliquer le texte. Daniel, à ce moment-là, ne voudrait ni gloire, ni fortune, mais il était prêt à faire ce que Dieu voulait. Il a refusé d'accepter la récompense. Cette fois, Daniel a eu une attitude différente de l'attitude qu'il avait eue face à Nebuchadnezzar pour expliquer ses grands rêves. Daniel lui a rappelé qu'il ne sait pas l'humilier, il ne sait pas repentir devant Dieu, mais qu'il a insulté le vrai Dieu. Il a profané les objets sacrés du temple. Daniel a d'abord de rappeler ce qui s'était passé avec son ancêtre, son père, son grand-père, Nebuchadnezzar. Dieu l'avait puni pour son arrogance et le cœur du Nebuchadnezzar avait été changé. Il s'était comporté comme une bête. Dieu l'avait puni pour lui faire comprendre que c'était comportement. C'était le Dieu suprême qui a le pouvoir dans le royaume des hommes. Et qui a ses propres idées. Daniel a ajouté, Belshazzar, tu es son petit-fils, même si tu sais tout cela, ton cœur n'est pas devenu humble. Et tu t'es rebellé contre le Seigneur dans les cieux en utilisant les vases de son temple. Toi et tous les ministres, la reine et toute la cour, vous avez pu dans ces ustensiles. Donc les mots écrits signifient la fin de ce roi. Mêlé, c'est un nombre. Dieu a compté les années de ton règne et il est fini. De quel? Veut dire que tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Parine veut dire que la division, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voilà, nous voyons que jusqu'à la fin de ce chapitre, versets 30 et 31, cette même nuit, Belshazzar, roi de Caden, fut tué et Darius, le maître, s'emprassa du royaume. Il était âgé de 62 ans. Voilà pourquoi est-il si facile de prendre la ville? Selon l'histoire, les deux rois de Métopex vont unir leurs forces pour attaquer la ville de Babylone. La ville de Babylone était traversée par une rivière. Les deux rois ont examiné le terrain et ont ordonné aux ingénieurs de bloquer la rivière et d'ouvrir un autre canal de la rivière pour faire couler l'eau vers d'autres endroits. De cette façon, les soldats Mèdes ont pu entrer dans la ville par la porte de dos. En rentrant dans la ville, le banquet de la cour de Babylone n'était pas encore terminé. De façon inattendue, la ville fortifiée n'a pas été détruite. C'est-à-dire que le roi Mèdes Darius a pu la prendre. Et c'est ainsi que Babylone s'est détruit. Voilà, nous arrivons à la fin de notre message de prédication. Le livre de Daniel revêt un intérêt particulier pour nous chrétiens parce que le temps dans lequel nous vivons actuellement y sont décrits. Ce chapitre nous permet de réfléchir à la signification et la valeur de la vie. Un jour, nous allons tous faire face à l'éternité et rendre compte de nos actions devant Christ. Voix de Corinthiens 5:10. Tout cela mesuré dans la balance. Tout sera mesuré dans la balance de Dieu, sa balance. C'est pas la balance de l'humain, sa balance. Quelle est la balance de Dieu? Comment il nous pesait combien de kilos de la viande? Va-t-il montrer ce que vaut chaque personne à ce moment-là? Soyons vigilants chaque jour afin que nous puissions avoir la sagesse. Nous avons maintenant l'opportunité de racheter le temps. Il est temps de salut. 2 Corinthiens 6, verset 2. Donc, vivons de tout notre cœur et de toute notre âme en faisant ce qui nous plaît. Voici quelques références à la vie. Première vie, c'est que vie étonite. Par exemple, dans le cas de Pessassa, il était dans la ville, et alors que la ville était en danger. Le roi était encore dans un état second, se livrant à la boisson et méprisant le Dieu le plus grand. Finalement, il a été tué cette nuit-là. Son âme est dans le naufrage. Cette vie est-elle désirable? Le Seigneur Jésus a dit, la chair est inutile. Et cet esprit qui fait vivre les gens. Les paroles prononcées par le Seigneur sont que l'esprit est la vie. Deuxième référence à la vie, c'est la poursuite de la gloire et de la fortune dans une vie. Profitez de tout. Profitez tout. Nebuchadnezzar en est l'exemple. Quand il fut puni par Dieu et que son esprit s'est enfin réveillé, il a compris que le Très-Haut était au pouvoir dans le royaume des hommes. Il a déclaré son royaume est pour toujours et son autorité est dans toutes les générations. L'histoire montre que le pouvoir national de Nebuchadnezzar lui a été enlevé et la troisième génération a été détruite. Il a dit plus tard que tous les habitants du monde sont considérés comme du néant devant le Dieu le plus haut. Poursuivant la justice du royaume de Dieu, et n'obéissons qu'à la volonté de Dieu pour toujours. Matthieu 6, 33 et 7, 21 et premier livre de Jean, chapitre 2, 17. Donc, la vie, troisième de référence à la vie, c'est la vie de Daniel. La vie de Daniel est un modèle pour nous dans l'époque de Nebuchadnezzar comme une lumière qui prie dans l'époque-là. Sa vie est celle d'un homme pieux, une vie innocente. Quand vous êtes jeune, vous êtes déterminé à être saint, prier, lire et ne jamais être Oisif, qu'est-ce que ça veut dire? Faire rien. Oh là là, même je lire, je comprends pas. Par exemple, écoutez le témoignage de la reine. Il y a une personne dans votre pays qui a le Saint-Esprit. Cette personne a un cœur brillant et sage, rempli par la sagesse de Dieu. Il a une bonne spiritualité. Il est intelligent. Il peut expliquer des rêves et des énigmes. Cette personne s'appelle Daniel. Donc, nous devons faire ceci. Ne vivons pas nos vies Ne négligeons pas le grand amour de Dieu. Poursuivons la bonne spiritualité et cherchons Dieu. Voilà, nous arrivons de conclusion. Je termine ce message en réfléchissant que il y a 2500 ans, Dieu a utilisé Daniel et en son temps, il est devenu une témoin de la puissance de Dieu dans les différents endroits. Vivez pour le Seigneur et témoignez pour le Seigneur. 2500 ans plus tard, Dieu cherche des derniers. Peut-être c'est toi, peut-être c'est moi. Au dernier siècle et en 2018, lequel est prêt à se lever et à compter sur la puissance de Saint-Esprit pour avoir de la force et dit que je suis prêt à être un Daniel. Avoir la force et dit que je suis prêt à être un Daniel. Que vous ayez 15 ans ou 30 ans ou vous êtes aujourd'hui 30 ans ou que vous soyez prospère comme Daniel, âge de 80 ans, Dieu veut vous utiliser. Utilise-moi, Seigneur, soyez des Daniels. Préparez-vous à être les messagers de Dieu dans le pays étranger aujourd'hui. Je pense que c'est ma prière de tous les jours. J'espère que c'est aussi votre prière dans ce monde qui ne connaît pas qu'est-ce que c'est le vrai Dieu, qui continue de faire les choses en dehors de la volonté de Dieu. Voilà, que la pitié de Dieu soit avec nous, que tous les chrétiens doivent se lever pour manifester sa grandeur. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce moment-là. Nous pouvons vraiment réfléchir ta parole pour comprendre ta grandeur. Ta parole est une lumière qui éclairait notre âme, notre corps physiquement entier pour vraiment s'asseoir un esprit avec sagesse qui continue pour servir à toi. Merci Seigneur. Je prie en ton nom Jésus-Christ. Amen.